une évolution chez Hugo dans sa vision de Napoléon, notamment à partir des Misérables, où il y a une discussion entre Marius, qui est nourri de l'épopée napoléonienne, ce qu'il a dit à son père, comme Victor Hugo, d'ailleurs, c'est autobiographique, et qui dit aux amis de l'ABC, ces jeunes révolutionnaires des Misérables, qu'y a-t-il de plus grand que Victor Hugo? Et les amis de l'ABC répondent, la liberté. Et ça va revenir petit à petit chez Hugo. Et vers la fin de sa vie, dans un discours pour le centenaire de la mort de Voltaire, il dit que dans beaucoup de cas, le héros est une variation de l'assassin. Et il pense très certainement, je pense, à Napoléon.
Oui, c'est le côté obscur de Napoléon.
Il y a tout de même
une variation, bien sûr.
Le coup d'État empire l'enjeu.
Oui, mais au début, c'est Napoléon le Petit et Napoléon le Grand.
Oui, c'est ça, oui.
Et encore Napoléon le Grand. Mais peu à peu, son admiration pour Napoléon le Grand diminue.
Ah oui, avec le temps, bien sûr. Merci bien. Je ne peux pas de questions. On va pouvoir.
Oui, Frédéric. Il y a un besoin de figures comme ça, mythologiques, saintes, chez Oliberti.
Pardon ?
Tu identifies un besoin de mythifier, besoin de figures héroïques, saintes.
Bien sûr, oui. Napoléon et Victor Hugo sont deux images absolument prépondérantes pour le débat. On pourra aussi juger celle de Mallarmé, bien sûr.
Mmh.
Oui, je crois qu'il a besoin de ça aussi.
Oui. Mmh.
Mais il y a aussi, chez Oliberti, aussi une presque tradition chez les grands poètes. Par exemple, Peggy qui incarne la pensée de Descartes et le cœur et le corps de Jeanne d'Arc, qui va aller jusqu'au bout de sa pensée de défendre vraiment les valeurs de ce pays. Je trouve chez Oliberti, il faut qu'il trouve vraiment deux races. Un guerrier comme Napoléon et un homme aussi divin comme Victor Hugo. Et je sens vraiment chez Oliberti, c'est pas vraiment le vrai soldat. Mais c'est pas le vrai soldat, mais c'est quelqu'un qui défend aussi, qui protège la société par la Sainte Écriture. Et là, c'est chez Oliberti quelque chose de très beau. C'est-à-dire, il se considère comme le mouchard de tout-puissant. Oui. Et il dit, c'est-à-dire que moi, je protège la société par la poésie. Je ne suis pas là pour les armes, parce que on le sent que chez Oliberti, il s'est mis loin de la guerre. Et il dit, j'adore vraiment les vers qu'il a consacrés dans « Anges entrailles », les hommes, je les admirais comme un passant. Je ne me sentais pas tout à fait de leur bande, j'avais peur de leur guerre. Et qu'un soir me pende comme mouchard mal travesti de tout puissant. Mais je trouvais les femmes belles. Je croyais que tu me rappelles, les anges, visage aperçu. Je caressais sur ton visage le souvenir et le présage des matins qui me blessent, quand je compris que ce visage tendait vers moi contre l'usage, car les femmes ne m'aiment pas. Et là, c'est extraordinaire chez Oliberti. Pourquoi les femmes n'aiment pas Oliberti et pourquoi les hommes, ils ne sont pas vraiment un homme? C'est-à-dire un singulier parmi les singuliers. Et là, c'est extraordinaire chez Oliberti. C'est-à-dire que je suis une race étrange. Et il consacre aussi dans La Bête Noire, je pense, dans la pièce de théâtre, où cette bête noire qui marche avec les gens, mais les gens admirent vraiment de franchir cette sainteté, cette bête qui marche, mais qui n'arrive pas vraiment de comprendre cette race étrange. Et il dit, je suis presque, c'est ça, il incarne cette race étrange, et j'adore Oliberti, surtout, sincèrement, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire.
Très, très bien, vous avez raison d'exprimer votre
regard,
absolument, bien sûr. Et en ce qui concernant la guerre, oui, effectivement, Oliberti n'aimait pas la violence. Il avait eu cette expérience très très malheureuse. Il avait été envoyé par son journal courir la guerre d'Espagne et ça l'a traumatisé. Ça l'a vraiment très traumatisé. Et d'ailleurs, son article n'est pas paru, on l'a pas retrouvé. Donc, effectivement, pas de violence et du coup, c'est le côté guerrier de Napoléon qui n'apprécie pas trop, bien évidemment.
Mais le, toujours le mouchard. Lui, c'est l'espion de tout puissant.
Je me suis un peu à cette réflexion, effectivement. Le mouchard mal traversé.
Mal traversé de tout puissant.
Pas mal du tout. Voilà, on va
terminer. Il y a aussi cet étrange besoin de beaucoup d'ériger les grands hommes, les grands hommes, la patrie reconnaissante, la canonisation. Et en fait, c'est une espèce de caodaïsme. Vous savez, cette religion qui a été déclarée en 1926. Une religion vietnamienne dont les saints sont Victor Hugo, Napoléon, Lénine, Shakespeare, Jeanne d'Arc et autres, Pasteur et autres grands hommes. C'est-à-dire que quand il n'y a pas finalement, est-ce que c'est un problème d'intériorité absente qui fait que on va chercher ceux qui se montrent, ceux qui sont, ceux qui s'érigent, ceux qui prennent le pouvoir, ceux qui font la guerre, qu'il soit Victor Hugo, Napoléon ou les autres qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il y a finalement la question qui se pose, finalement, c'est quoi la spiritualité de... Enfin, voilà, dans quel registre on est, dans quel degré d'intériorité Hugo et Audiberti sont. C'est ce que cette religion du caodaïsme qui est assez étrange, parce que finalement, elle rejoint ces préoccupations qui sont exprimées là.
Oui, Audiberti était très préoccupé par l'histoire des religions. Sur la fin de sa vie, il se rapprochait de la religion catholique de ses pères. Et il y a un ou deux romans où il fait intervenir aussi les religions orientales. J'ai plus le titre là tout, pour le moment dans la tête. Quelqu'un pourra m'aider. Il y a un roman qui s'appelle Le Retour du Divin. Et puis il y en a un autre. Le Victorieux. Dans Le Victorieux, il fait apparaître un acteur qui se transforme en prêtre bouddhiste. Un acteur, c'est ça. Donc, effectivement, la spiritualité. Oui ?
Victor Hugo divinisait Dieu, nous disais-tu, mais j'ai l'impression que Audiberti, à t'entendre, lui, il le divinisait tout court, tandis que Victor Hugo, lui, au moins, il lui disait, c'est la vérité, Napoléon Dieu. Chez Audiberti, on a l'impression qu'il est surtout très impressionné par la grandeur.
Oui.
La grandeur de Napoléon. Mais la critique, et pourtant, il a eu une sensibilité sociale, la critique d'Audiberti pour Napoléon, au point de vue politique, je ne la vois pas beaucoup.
Non, il en parle une fois ou deux, mais assez rapidement, c'est vrai. Il retient le code civil, il retient... À un moment donné, il dit qu'effectivement, d'un côté, il fait donc tous ses textes de loi, et de l'autre côté...
Sur ce sujet, il est intéressant de constater que pour avoir eu un père maçon, Audiberti, son père a quand même fini juge consulaire au tribunal de commerce créé par Napoléon.
Oui.
Et je crois savoir même qu'il a fait entrer son fils comme greffier au tribunal de commerce.
Absolument.
Donc il a pu voir aussi ses réalisations napoléoniennes.
C'est vrai. Il était tout jeune, il avait 15 ans. Hein. C'était Antibes, effectivement. Le père de Liberty a fini notable, effectivement. Ouais. Alors, est-ce que... Il avait vraiment conscience que cette institution était issue de Napoléon à cet âge-là, à 15 ans, je ne sais pas. Peut-être pas, peut-être oui. Oui. Mais en tout cas, oui, effectivement, l'image de Napoléon chez Audiberti, comme je l'ai montré, elle vient tout jeune. Hein, donc la maison était peinte d'aigle, il jouait, etc. etc. Oui.
Ton collègue est tout à fait remarquable. Je voulais te demander, est-ce que tu penses que si Audiberti n'était pas né à Antibes, il ne se serait pas intéressé à Napoléon ?
Ah, bonne question. Je pense qu'il y a un vrai fond là-dedans.
Peut-être qu'il serait intéressé par Hugo.
Oui, mais effectivement, le fait d'être né à Antibes, c'est absolument original chez lui. Hein, et Antibes qui a refusé Napoléon. Par deux fois, puisque une fois emprisonné en 93 et une autre fois donc rejeté en 1815. Et malgré donc ces deux rejets, Napoléon reste une figure absolument. Et le mot anti-bois signifie peut-être aussi qu'il y a quelque chose pour nous. Oui, effectivement, le fait d'être né à Antibes, ça. l'image de Napoléon aurait été différente s'il était né ailleurs, je pense. Oui, Laurent.
Juste Audiberti, quand il donne la définition de ce qu'il entend par écrivain, qui distingue des écriveurs et des écrivains, je ne vais pas développer, et quand il pense à l'écrivain, il dit l'écrivain, dans le langage, il est chez lui. Il est chez lui dans le langage, et je crois qu'il dit le langage, c'est son empire. Il a un droit de propriété impérieux sur le langage, ce qui le distingue des journalistes, des écrivains. Et on retrouve le mot empire, peut-être avec cette envie de dominer, d'avoir un empire sur le langage ou un empire comme Napoléon, comme vous avez dit, sans aucune critique politique ou. Non, parce qu'il me semble que Victor Hugo critique plutôt le Napoléon III, mais je me trompe peut-être.
Le Napoléon Ier vers la fin de sa vie.
Oui, Laurent, tu fais bien de rappeler quand même cette distinction entre écriveur, écrivain et écrivain que Roland Barthes a prise. Il n'a pas trop cité ses citations, Roland Barthes. Bien, nous allons aborder maintenant donc notre quatrième. Intervention d'aujourd'hui, donc c'est Madame Sandras qui présente. Oui.